Donc le verset 12 qu'a lu Émile, « Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » Ça pourrait quasiment être le titre de mon message ce matin. Le titre de mon message que j'ai mis moi à la base avant qu'Émile vienne, c'était « Quel est mon objectif ? Qu'est-ce que j'ai à vue ? Qu'est-ce que je vise ?» Dans la fonction publique, sûrement dans le privé aussi, hein, moi j'ai que cet exemple-là, on a des objectifs annuels. Donc, tous les ans, on est noté par nos supérieurs, on nous donne des objectifs et... Voilà, c'est les tâches à accomplir dans l'année, les grandes tâches à accomplir. Et l'année suivante, on est jugé de la manière dont on a rempli ses objectifs ou pas. Voilà. À quoi ça sert ? Bon, premièrement, déjà donner des ordres clairs. C'est peut-être les seules fois où on nous donne clairement ce qu'il faut faire, donc faut en profiter. En fixant un objectif précis à la fin de l'année, on pourra dire objectivement si la personne elle a bien fait son travail ou pas. Alors, système d'objectifs, il est censé permettre d'identifier ceux qui font bien leur travail, ceux qui font même plus que les objectifs, donc les récompenser, les encourager à travailler encore plus, voilà. Et voilà, ça c'est la théorie. En pratique, ça marche pas aussi bien que ça, parce que il y a le côté non-objectif de la personne qui compte, et qui fait que certains vont avoir des objectifs comme ça, d'autres comme ça, et voilà, c'est pas si simple. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'en donnant des objectifs à quelqu'un, on le force d'une certaine manière à y mettre les moyens. Et c'est ça qui est important. Alors là aussi, hein, que ce soit dans la fonction publique ou ailleurs, ça marche plus ou moins bien. Mais si vous prenez vous-même vos objectifs, si vous êtes honnête avec vous-même, vous allez vous assurer de remplir ces objectifs et vous allez y mettre les moyens. D'accord ? Et donc l'idée, c'est de savoir quel est votre objectif, quel est mon objectif dans la vie. En réfléchissant à ce message-là, j'ai lu le livre « Sa parole pour aujourd'hui » et je trouvais que le passage, il n'est pas complètement adapté, mais il y a une moitié du passage qui est adapté. Donc, c'est un livre de Bob Gass et c'était celui du 22 novembre. À Jérusalem se trouve un cimetière appelé le Champ du Sang. Il fut payé avec 30 pièces d'argent, la récompense que reçut Judas pour avoir trahi son meilleur ami. Après l'avoir reçu, il se découvrit incapable de vivre en sachant ce qu'il était devenu. Aussi décida-t-il de se pendre. Ses ennemis utilisèrent l'argent pour acheter un misérable cimetière et l'y enterrer. Que recherchez-vous dans la vie ? Quel est le prix que vous accepteriez de payer pour l'obtenir ? Attendez avant de répondre par un mensonge. Comment pourriez-vous vivre en compagnie d'un menteur le reste de votre vie ? Souvenez-vous, c'est le premier mensonge et pas le 50e qui fait de vous un menteur. Ce n'est pas parce que d'autres ne se rendent pas compte que vous vivez une double vie que vous pourrez y réchapper. Vous, vous le savez, et vous perdrez vite votre paix intérieure, votre confiance en Dieu, pardon, et votre respect de vous-même. Le plus important est de pouvoir vivre en paix avec soi-même. Judas essaya de revenir en arrière. Il fut alors pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux chefs des prêtres et aux anciens. Et il leur dit « Je suis coupable, j'ai livré un innocent à la mort. » C'est Matthieu 27, versets 3 à 4. « Les conséquences de certains actes peuvent être réparées, mais d'autres sont définitives et irrévocables. » Et la conclusion de cette parole-là, c'était « Les buts choisis pour votre vie détermineront en fin de compte ce que vous deviendrez en cherchant à les atteindre. » Alors, je remonte encore plus loin en arrière. Au mois d'août, la dernière prédication, elle portait sur la persévérance. Vous avez dit que ça venait de père, qui était aller plus loin, passer au-dessus, au-delà d'eux, et sévéro, qui est sévère, austère, inamical. Donc c'est aller plus loin que ce qui est inamical, plus loin que les difficultés, passer au-dessus des difficultés. La définition, c'est demeurer ferme et constant dans un sentiment, dans une résolution. Et en fait, l'idée, c'était de savoir de persévérer dans ce qu'on fait, c'est d'aller plus loin. Voilà, il y a une idée un peu de forcer, hein, finalement, dans persévérance, de rester ferme. Et je vous avais dit, Norman dit souvent, il décrit les attributs du chrétien, il dit un tas de choses, et puis à la fin, il dit, mais c'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est tout à fait normal. C'est la vie chrétienne normale. Et la question, c'était jusqu'à quel point est-ce qu'on veut aller avec le Seigneur ? Jusqu'à quel point on veut... ressembler à Norman ? Non, c'est pas assez. Jusqu'à quel point je veux ressembler à Jésus, en fait ? On veut pas des miettes de vie spirituelle, on veut quelque chose de plus. Et c'est tout l'objet de ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vous voulez comme objectif dans votre vie ? C'est vous-même qui vous le fixez, hein. C'est pas un supérieur. C'est vous qui choisissez, moi dans ma vie je veux faire ça, et je mettrai tel et tel moyen pour y arriver. Si déjà vous n'y mettez pas les moyens, vous avez un problème avec vous-même. Si je me dis, je me fixe ça, et puis finalement je fais rien pour y arriver, c'est que je ne suis pas cohérent avec moi-même. Alors avant de parler de nos objectifs à nous, on va parler de l'objectif de deux personnes bien particulières, que vous connaissez tous. Le premier, c'est Dieu. Quel est son objectif à lui? Alors je résume peut-être un peu brutalement, mais globalement, d'avoir une relation d'amour avec sa créature. C'est bien qu'on peut l'interpréter de plein de manières, on peut y mettre plein de phrases, hein, mais voilà, moi c'est l'idée que j'en ai, c'est Dieu, il veut une relation avec sa créature. C'était ce qui était prévu au départ, n'est-ce pas? Dans le jardin d'Éden, il vient régulièrement le soir discuter, et d'une manière ou d'une autre, il est présent avec sa créature. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a péché, et cette relation, elle s'est brisée, elle a été cassée. Donc finalement, le résultat du péché, c'est de casser cette relation que Dieu cherchait à avoir avec l'homme. La relation personnelle avec Dieu, c'est aussi ce qui est prévu à la fin des temps. En fait, c'est prévu au début, c'est prévu à la fin, c'est prévu au milieu, c'est prévu tout le temps. Dans le cœur de Dieu, c'est d'avoir une relation avec nous. Je vous lis simplement dans Apocalypse, « Je ne vis point de temple dans la ville, » c'est Apocalypse 21, « car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. » Et un peu plus loin, on lit, « il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. » On retrouve un peu cette situation qu'on avait dans la Genèse, en fait, hein, où Dieu il est au milieu de son peuple, et où il n'y a pas un temple pour identifier qu'il est là-bas, il est juste au milieu de son peuple, les gens le voient, le servent, et c'est une vie normale avec Dieu. Jésus, il n'est pas venu pour nous aider à prier plus, il n'est pas venu pour nous aider à nous aimer plus, il est venu pour rétablir la relation entre Dieu et les hommes. C'était ça son but. Dans 2 Corinthiens 5, verset 19, on lit « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Alors c'est un peu bizarre cette question de Dieu, parce que finalement il n'y avait pas besoin d'hommes, il n'y avait pas besoin il n'y avait rien besoin. Il a créé des hommes, et on a l'impression dans la Bible finalement que son besoin, ça reste quand même d'aimer l'homme et d'avoir une relation avec lui. Alors, à mon échelle, ça vous fera rigoler, mais quand j'étais gamin, j'aimais bien les Lego techniques. Je sais, je fais de la pub, c'est enregistré en plus, mais voilà, bon, c'était pas que quand j'étais gamin, en fait, ça a continué. Dernièrement, j'ai ressorti les boîtes, et les enfants ont joué 5 minutes, et moi 2 heures. Voilà, un long travail de construction. Mais quand à la fin, vous avez quelque chose qui donne bien, qui fonctionne bien, vous en êtes content. Et dans les dernières années où j'avais encore des cadeaux de Noël comme ça, j'ai une boîte avec des moteurs, avec un petit truc pour programmer tout ça, et niveau du dessus, quoi. Vous dites, en plus, je peux le faire fonctionner, le faire bouger dans le sens que je veux, le programmer pour qu'il fasse ce que je veux, et il y a un plaisir à construire qui est terrible, quoi. Voilà. On retrouve un peu ce plaisir-là quand on fait un peu de développement de programmation. On fait son truc et quand c'est réagi exactement comme il faut, parce que des fois, oui, en informatique, ça marche comme il faut, il y a un plaisir de dire « Ah, ce que j'ai fait, c'est bien. » Et on reconnaît Dieu, en fait, là. Au début, il a fait l'homme, il a fait toute la création, et à la fin, il a fait « Ce que j'ai fait, c'est bien. » C'est bien. Il y a quelque chose de pareil avec le bébé, au tout début, hein, parce qu'après, ça se complique. Mais c'est le bébé qui naît, puis tout doucement, après, il tient votre main, il vous regarde, il y a une interaction qui devient possible. Et voilà, on est gaga devant tout ça. Et Dieu, c'est la même chose, en fait. Il a créé l'homme, et puis il a pu commencer à avoir une interaction avec lui. Il y a eu quelque chose vraiment qui faisait plaisir à Dieu. Et je pense, dans ce sens-là, on peut le comprendre. Il y a mis un peu de ça en nous. Je ne sais pas si les animaux ont un plaisir à créer quelque chose, à faire quelque chose. On a l'impression qu'il y a un système, voilà, je survis, je fais ce que je peux pour vivre, et voilà. Mais nous, il y a quelque chose de plus. C'est le côté artistique de l'homme qui doit venir de Dieu. Alors ça, c'était l'objectif de Dieu. La deuxième personne, c'est le diable. C'est quoi son objectif à lui? Ouais, voilà. Dans Jean 10, on lit que le voleur vient pour dérober, égorger et détruire. Alors on voit bien que cette parabole avec le berger, les brebis et le voleur, ça illustre Dieu avec ses créatures et le diable qui essaye de voler les créatures à Dieu. Et donc les trois verbes qu'on dit pour le voleur qui vient dérober, égorger et détruire, ils s'appliquent bien au malin. Lui, c'est son but. Si on lit, j'en dis, je vous lis juste les deux versets concernés. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'était le verset 10. Et au verset 14, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Vous voyez, on retrouve cette relation-là de Dieu avec ses créatures. Je connais les brebis, elles me connaissent. Voilà, il y a quelque chose de complet. Comme le Père me connaît, comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Et on retrouve encore une fois le but de Jésus en mourant, qui n'était pas nous apprendre à prier, nous apprendre à être gentils, à être beaux, à être, voilà, qui était de donner sa vie pour nous et de rétablir cette relation entre les brebis et le berger. Vous le savez probablement aussi, je dis que des choses que vous savez en fait, hein. Je ne sais pas pourquoi je suis là. Il y a deux chapitres particuliers dans la Bible qui nous parlent de la chute du diable. Hein, il y a Ésaïe 14 et il y a Ézéchiel 28, qui sont vraiment là où on a des passages complets. Alors, on ne va pas tout lire, mais juste dans Ésaïe 14, je vous lis les versets qui m'ont moins intéressé. Ésaïe 14, versets 12 à 17. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Voilà, son but c'était ça au diable. Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait des villes et ne relâchait point ses prisonniers? On retrouve là en fait les actions du voleur, hein, qui dérobe, qui égorge, qui détruit. Et dans Ézéchiel 28, au verset 2, Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Ils sont parfaitement clairs, hein, ces versets. On voit que le diable, son but, c'était de prendre la place de Dieu, et du coup, prendre cette relation qu'il y avait entre l'homme et Dieu, la casser, et que ça soit lui qui soit à la place. On sent dans Ézéchiel 28, je suis Dieu, je suis, et voilà, il y a l'orgueil du malin de prendre cette place-là. Et voilà, il y a quelque chose en lui qui a été, quand il a été chassé de la présence de Dieu. Et maintenant, il y a une colère dans son cœur qui est de, bah, je vais casser un maximum de ce que Dieu fait. Et si je peux avoir des gens qui m'adorent, bah, c'est mieux. Et au pire, ils n'adoreront pas Dieu, mais voilà, ils cassent. Et on voit l'opposé de ce que fait Dieu. On voit pas une seule trace d'amour dans les propos, enfin, dans ce qui est attribué au malin. Alors on en arrive forcément, maintenant qu'on a donné ces deux objectifs-là, à nos propres objectifs. Qu'est-ce que vous êtes fixé comme objectif pour votre vie? Qu'est-ce que je me suis fixé? Si je vous partage ça, hein, c'est que ça me travaille moi, hein, faut pas le vivez pas comme une accusation, c'est des questions que je me pose moi, et à chaque prédication, il y a une suite. Est-ce que vous êtes fixé des objectifs dans le domaine de la prière? Est-ce que je me suis fixé des objectifs dans le domaine du service, dans le domaine de la lecture de la Bible? Il faut bien choisir son objectif. Une direction qui m'a donné des mauvais objectifs en début d'année. Et en fin d'année, on s'aperçoit qu'on a mis des moyens dans quelque chose qui ne valait pas le coup. C'est dommage. Et avec le Seigneur, c'est pareil. Si vous dites, moi, mon objectif, c'est prier, vous mettez des moyens là-dedans que vous ne mettrez pas ailleurs. Et mon objectif, il ne peut pas être de prier plus. Il ne peut pas être de lire plus la Bible. Il ne peut pas être de servir plus. Le seul objectif qui est valable, c'est celui de Dieu, c'est-à-dire avoir une relation avec lui. Le reste, c'est accessoire. C'est pas que c'est accessoire, on ne peut pas s'en débarrasser, mais c'est accessoire dans le sens, c'est pas prioritaire. Parce que c'est un peu des sous-objectifs du premier. Si vous ne faites pas le premier, le reste, ça n'a pas d'intérêt. Il faut absolument réaliser cet objectif-là d'abord. C'est en me rapprochant de Dieu, en le connaissant mieux, que j'aurai envie de le prier, que j'aurai envie de lire sa parole, que j'aurai envie de le servir. C'est même en m'approchant de lui, en le connaissant, que je vais me dire, mais il faut que les autres, ils le sachent aussi, il faut que les autres, ils en arrivent à ce point-là. Et donc, même l'évangélisation, c'est une conséquence de ça. Tout est lié à ma relation avec le Seigneur. Abraham était l'ami de Dieu. C'est un qualificatif qui fait plaisir. Hein. Dans Ésaïe 41, verset 8, on lit « Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé. » Et dans Jacques 2, « Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. » Moïse y parlait avec Dieu face à face, comme avec un ami. C'est ce que nous dit Exode 33. Il était dans la présence de Dieu, et c'est ça qui était transformé et qui pouvait après diriger le peuple de Dieu. Tout est la conséquence de ce point-là, en fait. Et c'est pour ça que je veux vous amener ce matin au fait que votre objectif, ça doit être la relation avec Dieu. Le reste, c'est pas le bon objectif. Vous allez viser juste à côté, mais à côté, c'est pas réaliser l'objectif. Alors, on cite Abraham, on cite Moïse, on pourrait citer David, on peut en citer plein, mais ce n'est pas réservé aux grands hommes de Dieu. Il ne faut pas se dire, ah oui, mais ça, c'était des gens particulièrement importants, moi, ce n'est pas ça. Il n'y a rien qui dit dans la Bible qu'on n'a pas droit à une relation avec Dieu. On l'a lu avant. Jésus, il est venu avec un unique but qui était de rétablir cette relation. Il n'y a pas dit, je suis venu pour rétablir la relation entre Moïse et Dieu, entre David et Dieu. Il est venu pour tout le monde. Alors pourquoi je vous ai parlé avant de l'objectif de Dieu et celui du diable? Ben, si vous m'avez suivi, vous avez bien compris, c'est qu'on n'a pas le choix. En fait, c'est un A ou B et il n'y a pas d'autre solution. Soit vous prenez le même objectif que Dieu et vous voulez faire grandir votre relation avec lui, soit vous êtes en train de faire celui du diable. Il n'y a pas le choix, il n'y a pas de neutralité possible. Si vous dites, ben moi je ne sers pas le diable, je ne sers pas Dieu, ben vous êtes en train de servir le diable de toute façon. À partir du moment où vous ne servez pas Dieu, vous servez le diable. À partir du moment où votre relation avec Dieu, elle diminue, c'est l'objectif du diable qui est en train de se réaliser. Il n'y a pas le choix, c'est deux vases communicants, on pourrait dire. Jésus, il dit, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, en parlant des richesses. Mais ce n'est pas limité à Mammon. Vous pouvez reprendre le passage, vous ne pouvez pas servir Dieu et le diable. Le passage correspond derrière, vous ne pouvez pas avoir deux objectifs dans votre vie. C'est un peu ça qui est dit. Si vous choisissez de suivre Dieu mais pas à fond, alors vous réalisez l'objectif du diable. On y revient tout le temps. Dans l'Apocalypse, il n'y a que deux groupes désignés par Dieu. Quand Jésus en parle aussi, il y a les brebis, il y a les boucs. Il y a ceux à sa gauche, ceux à sa droite. Ceux qui sont sauvés, ceux qui ne le sont pas. Il n'y a pas de neutralité possible avec l'Évangile. Dans 2 Corinthiens 6, verset 14, ça dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle ? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, il a dit, ouais, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. » Vous voyez qu'on retrouve dans ces propos-là l'idée de « je vais être au milieu d'eux, je vais être à l'intérieur d'eux, je vais avoir une relation avec eux. Nous sommes le temple du Dieu vivant, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Si vous relisez, il y a plein de passages où on ne fait pas attention comme ça. On les lit très très vite et quand on les relit, on s'aperçoit de cette relation que Dieu veut avoir avec nous. Alors pour conclure, c'est très court, c'est pour ça que j'ai laissé les gens passer avant moi. Est-ce que je me satisfais de ma vie chrétienne actuelle ? Tu dis, bah ouais, c'est bon quoi. Bah, vous n'avez déjà pas réalisé votre objectif. L'objectif, c'est tout au bout, c'est loin. Il y a de quoi faire. Quand on lit les témoignages des missionnaires, juste des hommes et des femmes de Dieu, on se dit qu'il y a mieux à faire, qu'on peut faire mieux, mais on est fixé sur le faire mieux. Et en fait, ce qu'on ne lit pas, c'est leur vie avec le Seigneur, et ça devrait être ça l'objectif. Il faut les envier pas pour ce qu'ils font, il faut les envier pour leur relation avec Dieu. De dire, ils ont fait confiance à Dieu à ce point-là. ils ont marché avec Dieu à ce point-là. Du coup, les conséquences, c'est qu'ils ont fait telle et telle chose, mais ça, c'est pas grave, c'est pas important. Hein, il faut se fixer un objectif qui en vaut la peine. Maintenant, après, c'est chacun dans sa vie qui doit choisir son objectif et qui doit y mettre les moyens pour y arriver. Dans Philippiens 3, verset 12, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. » C'est Paul qui dit ça. Vous voyez qu'on a encore du chemin à faire. « Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. » Il dit bien « Je cours pour tâcher de le saisir. » Il y a une idée que j'y mets les moyens, c'est pas j'y vais tranquillement. Je cours pour tâcher de saisir mon objectif. « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Voilà. C'était court, mais l'idée, la question, elle est très très simple. Elle est très très simple et en même temps, dans notre tête, elle doit faire remuer beaucoup de choses. Parce que l'objectif pour votre vie, après, il y a tous les moyens qui suivent. Est-ce que vous pouvez vous poser la question? Je me pose aussi moi la question pour moi-même. Bon, voilà. Officiellement, je me suis mis comme objectif de cette relation avec Dieu. Mais qu'est-ce que je mets comme moyen derrière pour y arriver? Est-ce que j'y mets le temps nécessaire? Est-ce que j'y mets l'énergie nécessaire? Il y a plein de choses qui découlent de ça. Il ne suffit pas de dire, oui, moi, mon objectif, c'est la relation avec Dieu. Il faut que tout le reste suive. Ce n'est pas juste des paroles en l'air, c'est un objectif de vie. Et donc, maintenant, je vous invite juste à passer un petit moment. On a largement le temps pour réfléchir à tout ça. Et il doit y avoir un changement dans notre vie. C'est ce que je me dis pour moi-même. Si mon objectif, c'est de mieux connaître Dieu, c'est qu'il me connaisse mieux. Et forcément, il y aura des conséquences. Moïse, il s'est tellement approché qu'il était lumineux. Il y a forcément des conséquences dans nos vies. Si on n'en voit pas les conséquences, c'est qu'on a mal estimé l'objectif ou c'est qu'on n'y a pas mis les moyens. Mais il doit y avoir des conséquences. Et après, on n'aura plus besoin de se dire « il faut que je prie plus, il faut que je fasse ci ». Ce n'est pas « il faut ». Si je vais le faire naturellement parce que je connais Dieu et parce que j'en ai besoin, j'en ai envie, parce que c'est naturel en fait simplement.